Comment entretient-on son corps? Qu'est-ce qui nous fait l'aimer, le détester parfois, le malmener tous les jours à l'entraînement? Que révèle-t-il de nous-mêmes, de notre vécu, de notre esprit? Comment est-il perçu par les autres? Comment l'utilise-t-on chaque jour dans notre vie? Pendant les Jeux paralympiques, l'équipe reçoit les confidences de para-athlètes français et les interroge sur le lien qu'ils ou elles cultivent avec leur corps. Fenêtre sur corps est à découvrir sur notre site et sur toutes les plateformes de podcast.
Je me présente, je m'appelle donc Axel Bourlon. Je suis athlète paralympique sur le mouvement du développé couché. Et du coup, je pratique ce sport-là depuis une vingtaine d'années et aujourd'hui, je suis en lice pour les Jeux de Paris. Alors moi, au niveau de l'haltérophilie, c'est comme un peu tous les sports de combat ou autres. C'est au niveau des catégories de poids de corps. Et du coup, moi, je suis dans la catégorie des moins de 54 kilos. Alors moi, mon handicap, c'est que je suis atteint de l'achondroplasie. En fait, c'est une forme de nanisme, une personne de petite taille. Je mesure 1m40 et après, du coup, mon poids, c'est 54 kilos. Aujourd'hui, j'ai une médaille d'argent sur les Jeux paralympiques de Tokyo. J'ai un titre de champion d'Europe. J'ai remporté 2 Coupes du Monde. Et j'ai créé un titre de champion de France et 3 records de France. Mon record perso dans ma catégorie où je suis le plus souvent par rapport aux compétitions, en moins de 54 kilos, il est à 173 kilos. Representing France, Axel Bourlon. Moi, je suis venu à l'haltérophilie dans le but au départ de vouloir me renforcer. Au départ, je voulais juste apprendre à nager. J'étais pas assez musclé du haut du dos pour sortir la tête de l'eau, pour prendre la respiration. Et du coup, on m'a conseillé de me renforcer musculairement dans le but de savoir mieux nager par la suite. C'est pour ça que j'ai découvert mon club dans lequel je suis licencié aujourd'hui et qui fait que j'ai pris gros aux entraînements de musculation d'haltéro et qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Moi, mon club, c'est le club handisport rouennais et j'ai découvert mon club à l'âge de 14 ans. J'ai testé d'autres disciplines avant de faire l'haltéro. J'ai testé du basket. Après, j'ai fait du hip-hop pendant pas mal d'années. Et puis après, du coup, je suis venu à l'haltéro. J'ai commencé à la limite à 14 ans. Parce que normalement, c'est pas conseillé de commencer l'haltérophilie ou la musculation avant 14 ans. Moi, en gros, quand j'étais petit ou autre, j'ai testé plein de sports. Jamais, au départ, je me suis dit, vas-y, demain, je fais l'haltérophilie. J'ai eu cet handicap de naissance. Après, j'ai appris à vivre avec. J'ai pas cherché à savoir pourquoi c'est moi qui est comme ça, pourquoi c'était tombé sur moi ou quelles étaient les conséquences après par la suite de mon handicap. Moi, j'ai pas tout cherché là-dessus. Après, comme je dis, c'est que j'étais très bien entouré et en gros, j'ai été considéré comme une personne comme tout le monde, quoi. C'est pas parce que j'ai une différence par rapport à mon handicap que, en gros, je devais être mis à part ou être traité d'une manière différente par rapport à que ce soit mes frères ou autres. Étant enfant, les moqueries sont très très faciles par rapport à que ce soit au handicap, par rapport à notre couleur de peau, par rapport à notre physique, si on est gros, maigre ou autre. C'est très très facile de se moquer. Et puis après, malheureusement, c'est avec l'éducation que tu as ou quoi que ça peut faire changer le regard sur les gens. Et là aujourd'hui, effectivement, il y a de la moquerie partout, hein. Mais après, t'apprends à vivre avec et puis tu passes au-dessus. Moi, dans ma manière de vivre ou quoi, j'ai toujours voulu montrer que malgré le handicap, en gros, on arrive à faire de belles choses. J'étais dans les structures, que ce soit aussi bien valide. Là, maintenant, je suis dans un club handi, mais j'avais aucune honte d'aller dans un club valide ou autre. Et après, là, aujourd'hui, effectivement, mon sport fait que ça a un peu changé le regard des gens et que ceux qui me connaissent ou ceux qui ont eu écho de mes résultats sportifs, en fait, ils me regardent pas par rapport au mec en situation de handicap, mais plutôt par rapport à l'athlète. Mon handicap m'a toujours poussé involontairement aussi à vouloir me battre tous les jours, non seulement pour moi, puis encore plus aussi dans le sport. Et puis après, ça, pour montrer que, oui, il y a un handicap, mais cet handicap-là, on peut en faire une force. Et que, aujourd'hui, ça peut peut-être motiver aussi les gens et qu'il faut pas avoir peur de pousser la porte d'une salle de n'importe quel club ou de trouver une passion ou un sport dans lequel on peut s'épanouir et aller chercher du résultat et qui fait que au lieu que la personne en situation de handicap reste un peu cachée ou dans son coin ou un peu s'apitoyer un peu sur son sort du handicap, et là aujourd'hui ça peut pousser et motiver en gros que ce soit les jeunes ou moins jeunes de trouver une solution pour passer au-dessus de leur handicap. Puis après, j'ai choisi aussi l'haltérophilie, mais après, physiquement aussi, ça m'a forgé et je me sens beaucoup mieux, quoi. Le but de l'haltérophilie, c'est de prendre une barre et sur le développé couché, de prendre une barre, de la descendre sur la poitrine et de remonter. Après, en gros, les flexums, c'est que c'est au niveau tendineux, au niveau osseux, au niveau des coudes, que tu peux pas l'étendre vraiment à fond. Donc, il y a une légère amplitude que sur un bras tendu d'une personne, entre guillemets, normale. Il y avait une amplitude à respecter, qu'il fallait avoir un angle inférieur ou égal à 20 degrés. Et j'étais un peu au-dessus des deux coudes, je suis au-dessus. Et après, je dis pas que je fais pas d'efforts supplémentaires par rapport à une personne avec des bras qui sont tendus à fond. C'est que juste mes bras, en gros, je les tends comme je peux le tendre, quoi. Comme toi, tu peux les tendre aussi. En fait, il y avait le règlement qui imposait une certaine amplitude au niveau des flexums, qui était tolérée. Et puis après, en 2018, effectivement, le règlement a changé. Et maintenant, il n'y a plus d'amplitude exacte à respecter. C'est vraiment, sur notre passeport sportif, faut juste marquer qu'il y a la présence de flexum. J'ai commencé donc en 2006, en 2007, j'étais déjà vice-champion de France. J'ai fait tous les championnats de France. Par rapport au flexum, du coup, j'étais impacté par rapport aux compétitions internationales. Mais par contre, j'étais déjà dans l'équipe de France vers 2011. Mais je faisais uniquement que les stages d'équipe de France, qui me permettaient du coup de me perfectionner encore plus par rapport au mouvement. Et que après, j'ai saisi ma chance sur le championnat d'Europe en 2018, où pareil, pour ma première compétition, je fais médaille d'argent, vice-champion d'Europe. Après, j'ai saisi les opportunités les unes après les autres sur les compétitions. Après, moi, j'ai fait pareil le nécessaire de mon côté, avant que le règlement change, de la kiné pour travailler sur l'amplitude et gagner quelques degrés, des états de posture ou autre. Donc en fait, tout en continuant mes entraînements, j'ai continué à essayer de grappiller des degrés sur mes flexums pour essayer qu'un jour ça passe, quoi. Puis après, du coup, il y a eu la compétition qui s'est présentée en France en 2018. Et du coup, c'est là où, en gros, j'ai passé la classification et que on a appris que le règlement avait changé. And the gold is his! Axel Bourlon is the European champion! En fait, on doit prendre la barre doit être stable, on doit attendre le start de l'arbitre pour que ça nous donne l'autorisation de descendre la barre sur la poitrine. Tu dois faire un arrêt bref sur la poitrine de 2 secondes rapide, mais sans t'enfoncer non plus dans la poitrine. Et faut quand même que tu la touches, la poitrine, ou juste l'effleurer. Et après, en gros, faut que tu remontes la barre, mais d'un trait, t'as pas le droit de monter la barre d'un bras après l'autre en escalier. Et une fois que la barre est en haut, stable, l'arbitre te dira pour la reposer.
6, 7, 8, stop.
Aujourd'hui, par rapport à mon sport, j'y suis à peu près 20 heures par semaine. Et en fait, ce sport-là me représente aujourd'hui, parce que je me consacre uniquement à mon sport pour atteindre mes objectifs, qui sont d'aller chercher les plus belles médailles possibles. En général, c'est du lundi au vendredi. J'ai 2 entraînements par jour. J'ai un entraînement le matin où c'est essentiellement du coup le mouvement de compétition, donc le développé couché. J'y retourne en fin d'après-midi pour faire l'entraînement de prépa physique. Donc ça, c'est les entraînements. Et puis après, à côté aussi, j'ai les soins kinés, la récupération et autres, 2 fois par semaine. Et là, en fait, ça fait 2 ans maintenant que j'ai 2 coachs. J'ai le coach de l'équipe de France qui donne la programmation au niveau du développé couché. Puis après, j'ai un coach avec moi, Flavien, qui est là pour m'assurer, pour ma sécurité, mon visu, et avoir un visu aussi sur le mouvement du développé couché. Mais par contre, lui, il a la partie libre sur moi, sur toute la préparation physique. Et du coup, en fait, je fais du crossfit, qui me complète vraiment bien dans ma préparation. Par rapport à la musculation classique, en fait, on peut travailler les mêmes muscles, mais d'une manière différente, et c'est plus rythmé et autre. Mais après, ça travaille aussi bien les muscles. Par rapport au développé couché, les muscles les plus importants, c'est pec, biceps, triceps, épaules et le dos.
Vu d'ici, ça ne paraît pas impressionnant, ce soulevé de barre. Mais Axel Bourlon pousse 163 kilos à bout de bras. Et il soulève en même temps la 4e médaille française. En argent.
J'ai eu l'argent à Tokyo, maintenant je veux l'or à Paris. Du coup, j'ai plusieurs tatouages sur l'avant-bras. En premier, j'ai le logo des Jeux Paralympiques, que j'ai fait juste après Tokyo. J'ai justement ma médaille d'argent que j'ai remportée à Tokyo. Et puis après, c'est tout un rapport avec justement Tokyo, le Japon, et avec des fleurs de cerisier. Effectivement, c'était mes premiers jeux, ma première médaille. Et du coup, bah, je voulais que ce soit gravé en moi. Bah là, si on regarde le classement actuellement, le premier mondial, il a une barre à 185. Mais après, on sait jamais le jour J ce qui peut arriver, que ce soit pour mes concurrents ou pour moi. Ça se trouve, ça se jouera plus bas ou autre. Bah, les 185 pour essayer de les titiller. Sincèrement, ça va être dur, mais c'est pas irréalisable.
Fenêtre sur corps est un podcast de l'équipe Explore à retrouver sur l'équipe.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Entretien Quentin Thomas, prise de son Mathis Rouanet, réalisation Roland Richard, coordination Léa Léostique.